Interview.
2 jours.
Corinne Morel-Darleux est dans notre studio, bonjour.
Bonjour.
Pour un nouveau compte-rendu de mandat radiophonique suite à l'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 septembre. Et vous vouliez qu'on commence notamment par un coup d'éclat de cette République En Marche qui propose une liste à la région et qui du coup confisque un peu les médias. Alors on y va d'entrée de jeu, hein. Confisquons-nous nous-mêmes pour parler encore d'eux.
Oui, alors micro coup d'éclat, en réalité ça a été un peu un non-événement qui a rapidement fait pchit mais qui nous a quand même coûté beaucoup de temps. Puisque au dernier moment, effectivement, on devait procéder au renouvellement des membres de la commission permanente à la région. Et au dernier moment, des élus de La République En Marche ont annoncé qu'ils allaient déposer leur propre liste. Donc ça a créé évidemment beaucoup de remous et de brouhaha dans les rangs du groupe du Parti Socialiste. Et puis surtout, ça nous a obligés à redéposer toutes les listes, à procéder par deux fois, parce que la première fois, il manquait une enveloppe au scrutin pour élire ses membres. Et tout ça pour découvrir seulement 3 noms sur le bulletin. Donc voilà, les élus macronistes se sont comptés dans l'Assemblée régionale. Ils n'étaient que 3 sur le bulletin. Ils ont recueilli en tout et pour tout 4 votes. Donc voilà, on a maintenant 4 macronistes qui sont sortis du bois, mais sur 204 élus, il faut reconnaître que c'est pas beaucoup. Et tout ça nous a fait perdre non seulement beaucoup de temps, mais en plus a un peu confisqué les médias qui n'ont parlé quasiment que de ça. C'était le sujet principal au 19-20 de France 3 le soir, alors qu'il s'est évidemment passé bien d'autres choses dans cette assemblée plénière, autrement plus importante pour le quotidien des habitants de la région.
Et pour terminer avec ça, on peut faire ça n'importe quand, on crée un parti, pouf, on propose en plénière de créer des nouvelles listes.
Oui, tout à fait, visiblement. C'est possible, effectivement, même au dernier moment, même si ça a un peu fait grincer des dents et que ça n'a pas servi à grand-chose.
Ouais. Bon, alors il va falloir changer cette possibilité, c'est pas normal, on a déjà tous voté en plus. Nouvel exécutif, puisque pas mal d'élus républicains, notamment, sont devenus députés.
Oui, il y avait effectivement plusieurs vice-présidentes et vice-présidents qui étaient candidats aux législatives. Et dans la nouvelle loi sur le non-cumul des mandats, on ne peut pas être à la fois député et dans un exécutif régional. Donc ils ont démissionné de leur poste, pas de conseiller régional, hein, je vous rassure, seulement du poste de vice-président ou de vice-présidente. Et donc il nous a été demandé de revoter sur ce nouvel exécutif de Laurent Wauquiez. Donc moi j'ai pris la parole pour notre groupe du Rassemblement pour expliquer que nous n'accorderions pas ce vote de confiance à Laurent Wauquiez. Ce qui a été l'occasion de rappeler toutes les raisons pour lesquelles on ne lui fait pas confiance, de rappeler aussi que c'était pas un vote de posture de notre part, hein. Ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on prouve qu'on travaille nos dossiers, qu'on dépose des amendements, qu'on essaye d'être constructif, puisque c'est le mot à la mode en ce moment, mais que force est de constater que Laurent Wauquiez nous aide pas franchement quand il préfère les autoroutes au train du quotidien, quand il préfère la FNSEA aux paysans, quand il préfère la Fédération régionale de la chasse, aux associations d'éducation à l'environnement, etc., etc. Donc ça a été l'occasion de le rappeler donc dans cette session plénière qui est publique, hein, et qui est ouverte aux médias, de rappeler aussi qu'il avait quand même encore quelques casseroles qui le poursuivent et sur lesquelles nous n'avons toujours aucune réponse. Ça a été le cas des soupçons de prise illégale d'intérêt qui pèsent toujours sur certains membres de son exécutif, notamment M. Chabert, dont j'ai déjà largement parlé sur ces ondes, mais c'est le cas aussi d'appels d'offres qui ne sont pas passés, de procédures de marché public qui ne sont pas respectées pour l'achat de places VIP pour un tournoi de tennis ou pour confier une plateforme pour les demandeurs d'emploi sur Facebook. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on ne sait pas bien quelle est la procédure qui a été suivie. Et donc, voilà, il y a aussi beaucoup de prise de liberté, on va dire, dans les méthodes et dans le fonctionnement démocratique de l'institution. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, nous avons voté contre cette liste du nouvel exécutif de Laurent Wauquiez.
Comporte-t-il quelques changements quand même ce nouvel exécutif ? Est-ce qu'on pourrait être heureux qu'un tel soit parti pour être remplacé par un autre ?
Bah écoutez, c'est un peu tôt pour le dire pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que c'est un exécutif qui est un peu plus pléthorique que le précédent, parce qu'il en a profité pour nommer des conseillers spéciaux, des conseillers délégués en plus. Donc lui qui s'était vanté de réduire le nombre de membres de l'exécutif pour faire des économies de fonctionnement, on voit que là, bon, ça a regrossi à nouveau. C'est un exécutif qui n'est pas tout à fait paritaire, puisque sur l'ensemble de l'exécutif, il y a 18 hommes pour 10 femmes. Et puis après, sur les personnes, bah écoutez, il y a des nouveaux vice-présidents, notamment en transport, à l'agriculture. Donc on va voir si ça change quelque chose dans les politiques régionales. En réalité, ça ne devrait pas être le cas, parce que ce qu'on a bien compris depuis le début de ce mandat, c'est que le seul chef à bord, en réalité, c'est Laurent Wauquiez, et que même les membres de son exécutif, parfois, découvrent des annonces qui les concernent dans la presse. Donc il y a malheureusement peu de choses et peu d'espoir à attendre de ce côté-là.
Et les personnes qui avaient été plus ou moins prises, peut-être dans ces situations de prise illégale d'intérêt, justement, ou enfin bon, de choses un peu troubles, sont-elles reconduites ? On parlait de M. Chabert, par exemple.
Oui, M. Chabert est toujours dans la liste de ce nouvel exécutif en tant que conseiller spécial à la montagne, tout à fait.
On va passer à des sujets plus sympathiques, notamment deux, j'en vois là. Vous avez proposé un vœu contre la suppression des contrats aidés.
Oui, alors
c'est le premier, non, qui est adopté comme ça ?
Oui, tout à fait. Alors c'est un vœu effectivement qu'on a proposé, que le PRG a co-signé avec nous. Alors un vœu, c'est quand la région s'adresse au gouvernement pour lui demander quelque chose. Donc forcément, c'est plus facile pour la majorité de voter quelque chose qui critique le gouvernement Macron que quand il s'agit de critiquer leur propre action. Mais du coup, ce vœu a effectivement été adopté officiellement par la région, qui va donc saisir le gouvernement sur la question de la suppression des contrats aidés, qui s'est faite de manière très brutale cet été et puis qu'a posé et qui continue de poser énormément de soucis sur cette rentrée, que ce soit au niveau des écoles, des associations, des collectivités locales, enfin de plein de structures qui sont impactées. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 000 contrats aidés qui sont supprimé, donc c'est quand même pas mince, hein. En termes de plan social, ça représente un gros coût au niveau de la région et au niveau du pays. Sur notre département de la Drôme, c'est le cas notamment de l'équipe du lycée professionnel Bouvet à Romans-sur-Isère que je suis allée rencontrer parce qu'ils étaient en grève il y a quelques jours. L'ensemble de la communauté éducative et enseignante du lycée s'est mise en grève pour protester contre ces conditions qui leur permettent pas tout simplement de faire leur travail en pleine rentrée scolaire et de le faire tout au long de l'année auprès des lycéens. C'est le cas aussi dans le Diwa. Hein. On sait que sur DIMEM, ça pose beaucoup de soucis, notamment à l'ESCDD, mais pas seulement. Et puis, il y a des écoles aussi qui sont impactées. Et puis, il y a des écoles qui résistent. Ça a été le cas de l'école de Sainte-Croix, qui, après deux semaines de mobilisation, de grève, de blocage des enseignants, mais de mobilisation aussi des parents d'élèves, des habitants, a finalement réussi à conserver ces deux contrats aidés. Donc ça permet de laisser entrevoir un petit espoir, hein, comme quoi de temps en temps quand même la mobilisation paye. Et on est du coup en train de monter là avec la France Insoumise et le Front Social une soirée de mobilisation et de débat public justement sur la suppression de ces contrats aidés qui aura lieu le 14 novembre. Alors on ne sait pas encore si ce sera à Die, à Sainte-Croix ou à Romans-sur-Isère, mais on vous tiendra évidemment informés.
Alors comme quoi, descendre dans la rue ou faire des blocages, cette démocratie-là fonctionne, hein, on le voit. Enfin, se demander, est-ce que réellement, si tout le monde se mettait à se battre pour ces 12 000 contrats, est-ce qu'ils seraient remis en service, et puis à l'échelle de la France évidemment, ou est-ce qu'on attend, comme beaucoup de gens le disent, qu'il y ait une nouvelle proposition, chaque président fait sa proposition de contrat aidé?
Bah, ce qui pose souci là dans la situation actuelle, c'est que finalement il y a du cas par cas. C'est-à-dire que concrètement, voilà, on peut se réjouir, on ne peut que se réjouir du fait que certaines structures parviennent à garder leur contrat aidé, mais on peut aussi s'interroger sur le fait que certaines y arrivent et d'autres pas. Et c'est quand même un vrai problème dans un état de droit que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est de revenir sur cette décision pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui ont la chance aussi d'avoir justement des citoyens autour en capacité de se mobiliser. Parce qu'en réalité, l'impact pour les écoles est le même. Que les parents soient mobilisés ou pas, c'est à la fin les enfants qui trinquent sur les conditions d'accueil et puis évidemment les personnels qui se retrouvent en nombre réduit. Donc voilà, ça pose cette question-là et c'est la raison pour laquelle la mobilisation, il faut qu'elle soit locale, mais il faut aussi qu'elle soit nationale pour que ce soit partout que cette réflexion s'engage sur les contrats aidés. C'est vrai que c'est des contrats qui peuvent sans doute être améliorer, il y a toute une réflexion à avoir, mais ce qui est certain, c'est que les supprimer comme ça du jour au lendemain à la veille de la rentrée scolaire est une faute politique de la part du gouvernement et une grosse erreur pour des gens qui prétendent vouloir aller dans le sens de l'intérêt général.
Et cette question de l'aide que l'État doit apporter pour qu'on puisse embaucher, votre point de vue là-dessus, par exemple, c'est
Ben,
bien, pas bien, c'est un service public qu'on devrait tenir?
Moi, mon point de vue, c'est surtout que je suis désolée, je persiste à ne pas comprendre pourquoi on engloutit des sommes astronomiques dans du crédit d'impôt recherche, dans du CICE qui a été accordé aux entreprises, justement normalement pour favoriser la création d'emplois, dont le bilan est calamiteux, parce que ça n'a pas du tout créé le nombre d'emplois qui était attendu, et que le gouvernement reconduit ces dispositifs qui ont prouvé leur inefficacité, et par contre supprime d'autres dispositifs de type contrat aidé, qui, là, on le voit bien quand ils sont supprimés, en réalité étaient fort utiles, et ont permis la réinsertion et le retour à l'emploi de plein de gens, tout en permettant à des structures d'assurer justement des services publics ou des services d'intérêt général. Donc c'est là où cette politique d'Emmanuel Macron est totalement incompréhensible, où voilà, on continue à faire des choses qui ne marchent pas et on arrête des choses qui fonctionnaient jusqu'ici. Donc là, voilà, moi, il va falloir m'expliquer effectivement ce qui dicte ce genre de choix gouvernementaux.
Sans compter qu'on peut tous aller le vérifier nous-mêmes au Pôle emploi de Cré, les deux personnes qui vous accueilleront sont en service civique. C'est peut-être pire encore que le statut de contrat aidé. Mais comme quoi tout le monde est vraiment touché par les mesures du gouvernement. Je vais le rappeler ici. Vous avez parlé aussi de l'hôpital de Die à la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas banal non plus ça quand même.
Oui, alors effectivement, j'ai saisi l'occasion parce qu'il y avait une délibération sur la question des déserts médicaux. Donc, où on a beaucoup parlé des hôpitaux en zone rurale. Donc, c'était évidemment l'occasion de parler de l'hôpital de Die. J'avais eu un échange avant avec le collectif et avec Philippe Levenberg, justement, pour calibrer un peu cette intervention. Et donc, ça a été l'occasion, tout simplement, de rappeler que c'est bien d'investir dans du matériel, dans de l'équipement, dans des scanners, mais que si d'un autre côté on ne met pas en face les moyens pour le fonctionnement, les moyens humains et puis aussi pour ce qui concerne l'hôpital de Die, tout simplement l'assurance de la pérennité des différents services, hein, qu'on parle des urgences de la chirurgie ou de la maternité, du coup ces équipements ils restent inutilisés s'il n'y a pas quelqu'un pour les faire fonctionner tout simplement. Donc voilà, j'ai rappelé aussi les délais d'intervention d'un certain nombre d'opérations. Hein. Une femme enceinte qui fait une hémorragie, c'est 20 minutes le délai d'intervention. pour une plaie ouverte, et j'ai rappelé quand même que nous, on était en montagne, donc avec des accidents possibles, c'est 45 minutes, et que donc le maintien de l'ensemble de ces services d'urgence, de chirurgie, de maternité dans un hôpital comme le nôtre était absolument vital, et que pour le coup, là, c'était pas se payer de mots que de parler d'urgence vitale, mais que c'était bien une réalité. Donc voilà, c'était l'occasion de le redire publiquement, d'alerter l'ensemble des élus et Laurent Wauquiez sur cette question. Laurent Wauquiez a répondu sur le fait qu'il partageait ses préoccupations, ce souci des petits hôpitaux de proximité en zone rurale comme celui de Die. Pour l'instant, Die ne fait pas partie des premiers petits hôpitaux dont il va s'occuper visiblement, puisqu'il va...
Il en a cité deux autres. Hein, c'est ça.
Voilà, il en a cité deux autres dans l'Ardèche et dans l'Isère. Donc on est encadré, avec un petit peu de chance, ça va finir par arriver jusque dans la Drôme et jusque dans le Diois, mais en tout cas, le message est passé.
Va falloir que ça arrive assez vite quand même, parce que là, on a quand même appris qu'au 31 décembre, a priori, il y avait un coup encore plus fatal, jamais porté déjà à cet hôpital, une fermeture de service décidée par le directeur par intérim de Valence. L'ARS,
l'Agence régionale,
de santé, c'est régional. Qui la pilote cette agence ?
Alors en fait c'est régional, mais ça ne dépend pas de la région, ça dépend de l'État. C'est ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État, donc ça dépend plutôt du ministère de la Santé. Mais on est effectivement dans un état d'urgence et d'alerte qui fait qu'il faut faire feu de tout bois et alerter de toute manière là à tous les niveaux possibles et imaginables, sachant que le président de région a tout loisir d'interpeller qui il veut, il sait d'ailleurs très bien le faire quand ça le concerne directement, et il a aussi évidemment la capacité d'en parler au préfet de région, d'en parler à l'ARS avec laquelle la région travaille et collabore, et puis après c'est aux élus aussi de prendre leurs responsabilités et donc d'alerter, de faire savoir, de rendre public par tous les moyens possibles dont nous disposons.
Si on pouvait digresser un tout petit peu sur cet hôpital de Die, souvent il est mis en question aussi sa rentabilité. On parlait de mettre du bon matériel, d'accord, pourquoi pas des personnes pour s'en servir. Le fait est quand même que sur notre territoire, il y a plein de moments, heureusement, mais qu'on est que 11 000 et que donc il n'est pas en train de fonctionner à plein tube comme c'est le cas. Donc quid de ces personnels qui vont avoir un moment de latence, et c'est là-dessus d'ailleurs que ça se joue énormément économiquement, en disant mais non, on ne va pas vous mettre à disposition un personnel aussi compétent aussi longtemps alors qu'il n'est pas utilisé.
En fait, on est pris dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que le fait de maintenir l'hôpital depuis 30 ans dans ce climat d'insécurité où on ne sait pas si ça va se poursuivre, si ça ne va pas se poursuivre, où il y a du coup des difficultés à recruter du personnel, parce que évidemment qui va venir s'installer pour travailler à l'hôpital de Die, s'il ne sait pas si son poste va être maintenu au-delà de 1 an, 2 ans. Et du coup, tout ce climat d'absence de garantie et de pérennité fait à la fois que c'est difficile d'attirer du personnel soignant, que du coup, les habitants de Die hésitent de plus en plus aussi à aller se faire soigner à l'hôpital, que du coup, on perd des patients qui vont soit accoucher, soit se faire soigner ailleurs, donc qui, d'une certaine manière, anticipent presque déjà la fermeture. Donc du coup, il y a une baisse du nombre d'actes qui peut permettre justement de justifier le fait de ne pas maintenir les services. Donc on est dans cette espèce de cercle vicieux qui est en plus aggravé par la lente disparition des services publics, parce que clairement, et c'est d'ailleurs ce que mon groupe a rappelé pendant les discussions sur cette délibération sur les déserts médicaux, il ne suffit pas de donner des primes aux jeunes médecins pour qu'ils aillent s'installer à la campagne. Encore faut-il qu'ils puissent y trouver un cadre de vie qui leur donne envie d'aller s'y installer et d'y fonder une famille. Et ça, quand vous n'avez plus de lignes de train, d'écoles, de théâtre, de culture, enfin tout ce qui fait la vie aussi dans nos zones rurales, bah c'est très compliqué de demander à des jeunes médecins de venir s'installer. Donc on voit bien que tout ça est lié et que ce combat pour maintenir l'hôpital de Die va de pair avec le fait d'obtenir enfin cette garantie qu'il ne sera pas fermé dans les mois qui viennent pour pouvoir accueillir du personnel qui sera content de venir s'installer ici. Et il est aussi lié au fait de maintenir la ligne SNCF, au fait de maintenir des services de l'État de type sous-préfecture, services administratifs, etc., de maintenir le théâtre de Die. Alors de ce côté-là, on a eu plutôt une bonne nouvelle puisque j'étais la semaine dernière à la soirée qui a été faite avec différents représentants du département, de la région, de la DRAC et de l'État pour signer une nouvelle convention sur le fait que le théâtre devient scène nationale. Donc lui, sa pérennité est un petit peu plus garantie aujourd'hui. Mais voilà, tout ça est lié et c'est pour ça que ce dernier coup de collier là, très important jusqu'au mois de décembre pour obtenir enfin une garantie sur la survie de l'ensemble des services de l'hôpital de Die est absolument nécessaire.
Donc c'est une quand même semi-presque bonne nouvelle puisque déjà le président de la région s'y intéresse ou s'y intéressera, ça nous est presque dit. Ah, c'est bientôt l'hiver, alors parlons canon à neige, hein, bien sûr.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle salve de canons à neige.
Mais ils ne font pas le chantier pendant l'été, c'est bête, non ?
Alors, les chantiers, je crois, durent malheureusement toute l'année. Et bon. Là, donc, il y a eu un nouveau vote d'un nouveau rapport. On en avait déjà eu. Là, c'est à nouveau donc, une enveloppe de 13,8 millions d'euros qui a été votée pour équiper différentes stations de notre région en canons à neige. Ce qui fait qu'on en est là quand même déjà depuis le début du mandat à 27,9 millions d'euros dépensés pour de l'enneigement artificiel. Alors eux, ils disent neige de culture, ça doit être plus chic.
Ça fait agriculteur.
Voilà, tout de suite. Mais pour des canons à neige qui, pour la plupart, ne pourront pas fonctionner très longtemps, puisque je rappelle que pour qu'un canon puisse cracher de la neige, il lui faut d'abord de l'eau et de l'énergie, qui sont quand même des ressources de plus en plus précieuses, mais il lui faut surtout des températures froides. Un canon à neige, il fonctionne de manière optimale à moins 10 degrés, et au-delà de plus de degrés, il ne fonctionne plus. Or, quand on regarde toutes les statistiques et tous les rapports scientifiques sur l'évolution du climat, notamment dans les Alpes, on constate que nos montagnes sont encore plus impactées que le reste du pays par le réchauffement climatique et que d'ici peu, il faudra oublier non seulement l'enneigement naturel, mais aussi ces températures très froides qui permettent de faire fonctionner les canons à neige. On est donc en train de créer avec cet argent public une sorte d'effet d'aubaine pour les stations qui investissent dans les canons à neige parce que la région ne prend en charge qu'une partie du financement. Donc on a des stations qui vont s'endetter pour des canons à neige qui risquent de ne pas fonctionner. Donc même d'un point de vue économique, on est là dans une fuite en avant qui risque d'être dramatique pour l'économie de ces stations qui, pour certaines, étaient en train de réfléchir à la diversification de leurs activités, ce qui aurait probablement été une idée bien plus judicieuse pour les années à venir.
Et vous avez écrit quelque chose sur ce sol gelé qui s'écroule là, parce que peut-être avant même d'équiper des stations en canon à neige, il va falloir protéger leur accès, de plus en plus menacé par des bouts de falaise qui s'écroulent, notamment dû au réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. On a fait une tribune collective un peu sous forme de cri d'alerte qui a été publié sur le site Reporter avec des acteurs de la montagne, des gardiens de refuge, des climatologues, des experts en géologie pour alerter sur le fait que on voit de plus en plus s'accélérer effectivement ce qu'on appelle des écroulements. Donc c'est des phénomènes en fait de pans entiers de montagnes qui s'effondrent. Il y a eu notamment un cas fin août dans les Alpes entre la Suisse et l'Italie où il y a un petit village qui a été entièrement enseveli sous la roche et la boue et plusieurs randonneurs qui sont morts dans cet effondrement. Et il se trouve que ces effondrements sont directement liés en réalité à la multiplication des épisodes de canicule et au réchauffement des températures qui petit à petit font fondre des espaces de la roche dans la montagne qui jusqu'à présent étaient gelés en permanence et qui servaient en quelque sorte de ciment à la montagne. Et avec la multiplication de ces températures très chaudes, ce permafrost se met à fondre, le ciment des montagnes se délite et on a ces phénomènes d'effondrement qui ont toujours eu lieu, mais jusqu'ici de manière beaucoup moins rapprochée et qui là s'accélère et s'aggrave à la fois en termes de régularité et en termes de volume, ce qui est donc particulièrement inquiétant et qui pour le coup a lieu ici même. On ne parle pas là de l'Arctique ou de contrées lointaines, mais de nos montagnes alpines. C'est d'ailleurs un sujet aussi sur lequel je vais revenir dans une prochaine chronique, puisque je fais là depuis la rentrée maintenant une chronique deux fois par mois chez Mermet, sur le site de Là-bas si j'y suis sur internet. La première était consacrée à ce projet d'autoroute inutile de la 45 entre Lyon et Saint-Étienne, et la prochaine qui sera en ligne sur le site de Là-bas si j'y suis lundi revient justement sur ces questions d'effondrement de montagne et d'équipement en canon à neige qui sont loin de répondre à la question.
Voilà, vous pourrez donc poursuivre ce sujet avec vous, Corinne Morel-Darleux, chez Mermet. On passe à cette délibération bois, forêt.
Oui, on a eu effectivement un texte, alors pour le coup assez intéressant, sur le bois et la forêt, pour mieux gérer nos forêts et puis pour mieux structurer toute la filière économique du bois, qui va plutôt dans le bon sens. Alors, on a déposé tout de même quelques amendements pour essayer de l'améliorer, parce qu'il y avait encore quelques points aveugles. Donc, il y a eu une discussion sur ces amendements qui n'ont pas été retenus, mais qui ont quand même été entendus. Et puis surtout, moi j'ai pris la parole pour faire l'explication de vote finale de notre groupe, et j'en ai profité pour parler aussi de la forêt dans son autre dimension, qui n'est pas uniquement de servir de bûches et de planches, mais aussi l'intérêt de laisser la forêt verticale et debout, et de tous les services écosystémiques en fait que rend la forêt. Ça a été l'occasion pour moi d'amener un petit peu de révolution et de poésie dans cette institution régionale, puisque j'ai eu le grand plaisir de pouvoir citer Armand Gatti, Antonio Gramsci, et puis un livre qui est sorti récemment qui s'appelle La vie secrète des arbres. C'était 2 minutes d'intervention, c'est pas long, mais j'ai eu la petite satisfaction à la fin de mes 2 minutes d'intervention d'avoir obtenu le silence total de cette assemblée régionale qui enfin écoutait une de mes interventions, ce qui est quand même assez agréable, comme quoi parfois le fait d'évoquer les maquis de la résistance et d'évoquer la poésie permet aussi d'attirer l'attention des élus régionaux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de propos dans l'institution.
Qu'est-ce qu'elle propose, cette délib, un peu en détail quand même ?
Alors en fait, ce qu'elle propose, c'est un petit peu d'amplifier finalement ce qui avait été commencé lors du mandat précédent, c'est-à-dire de ne plus aider aucun dispositif de coupe rase des forêts, d'aller vers une gestion beaucoup plus raisonnée et beaucoup plus durable des forêts, en partenariat avec les acteurs de type ONF, communes forestières, et puis en lien aussi avec la profession pour soutenir des scieries locales, par exemple, avec de l'approvisionnement en bois local. Donc on arrête de faire venir du bois de loin pour le transformer ici, et qu'on ait donc une filière de circuit court, en quelque sorte, du bois, en essayant d'éviter évidemment les aberrations qu'on a connues ailleurs, comme à Gardanne, par exemple, avec des énormes centrales thermiques qui consomment tout le bois local qui pourrait servir à d'autres choses. Donc là, il y a un accent assez fort qui est mis notamment sur le bois d'œuvre, donc sur la construction en bois local en tant que matériau écologique. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui va être favorisé de manière amplifiée par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici. Donc on a là pour une fois une délibération qui va dans le bon sens et que nous avons d'ailleurs voté.
Oui, et puis on a plein de Douglas et de pin noir ici dont on ferait bien de se servir, c'est vrai. Un peu de cynisme maintenant. Après ces jolis délibes et ces beaux vœux adoptés, on fait encore des trucs un peu bizarres à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, il y a deux exemples qui nous ont particulièrement choqués pendant cette assemblée plénière, qui sont assez révélateurs effectivement du cynisme de Laurent Wauquiez et de son équipe. Le premier, c'est une délibération qui a été intitulée « Région solidaire ». Qui est dédié notamment à un plan handicap, ce qui est très bien. Mais cet intitulé Région solidaire nous a un peu fait bondir parce que ça fait quand même un an et demi que Laurent Wauquiez nous abreuve de déclarations intempestives et particulièrement scandaleuses, que ce soit sur l'accueil des réfugiés, que ce soit sur les bénéficiaires du RSA et l'assistanat cancer de la société, hein, je cite Laurent Wauquiez. Et entendre la clause Molière, on pourrait en citer encore et encore. Et c'est vrai que du coup, entendre M. Wauquiez se vanter de créer une région solidaire nous a franchement hérissés. Donc on s'en est fait l'écho dans l'Assemblée en proposant de changer le titre de cette délibération, parce qu'en réalité, la région, plus que de faire de la solidarité aujourd'hui, propose plutôt de faire de la charité, en déléguant finalement au réseau caritatif et associatif une tâche que la région devrait assumer, elle, qui est effectivement celle de la solidarité, qui est quand même de la responsabilité des pouvoirs publics.
C'est pour ça qu'il veut défendre les contrats aidés, parce que comme les assos qui font...
Oui, c'est peut-être effectivement voilà. Pour pouvoir assurer cette charité libérale dont la région se déleste.
Bon, moi je suis cynique aussi. Alors le deuxième exemple, c'est un rapport, j'ai même eu du mal à le comprendre, c'est très très rigolo. Donc la région torpille une entreprise et veut lui apporter une aide pour qu'elle se ferme, c'est ça ?
Oui, c'est un petit rapport qui était glissé dans les plusieurs milliers de pages de rapports qui passent en commission permanente et qui m'a particulièrement heurtée, puisque c'est un rapport qui était dans les rapports agriculture, que je suis toujours avec beaucoup d'attention. Et donc c'est un tout petit rapport qui concerne une structure qui s'appelle Appui Bio, qui est une structure qui fonctionnait bien, qui faisait de l'animation des réseaux justement de l'agriculture biologique. Et cette structure a vu ses subventions coupées par la région de manière assez brutale, hein, comme toutes ces coupes de subventions. Et donc elle est aujourd'hui obligée de licencier et de fermer. Et donc la région lui accorde royalement quelques milliers d'euros pour finir de licencier et de mettre la clé sous la porte, ce que j'ai trouvé effectivement particulièrement cynique, puisque c'est la région qui est elle-même responsable de cette fermeture et de ce licenciement. Donc on a là un cas assez représentatif du phénomène de pompier pyromane, où celui qui met le feu fait mine d'éteindre l'incendie en aspergeant quelques gouttes de pétrole sur les braises.
Berck. Un petit mot rapidement sur le Lyon-Turin, puisque le Parti Socialiste et l'UDI ont voté Lyon-Turin.
Alors en fait, ils ont réaffirmé leur rattachement et leur soutien effectivement à ce grand projet de ligne du Lyon-Turin qui n'en finit plus de faire parler d'elle. Hein. C'est un projet auquel nous on est opposés depuis très longtemps parce que on a fait la démonstration, les collectifs ont fait la démonstration qu'il existait d'autres solutions beaucoup plus immédiates, beaucoup moins coûteuses pour mettre les camions sur les rails et réduire non pas dans 10, 15, 20 ou 30 ans la pollution de l'air, notamment dans les vallées alpines, mais de le faire dès maintenant, sur la ligne existante qui est largement aujourd'hui sous-utilisée, qui est aux normes et qui pourrait accueillir ces trains de fret de marchandises. Donc voilà, toutes les démonstrations ont été faites en termes de coûts, en termes de faisabilité, en termes même de collusion, de conflits d'intérêts dans ce dossier du Lyon-Turin, et le Parti Socialiste, l'UDI, le gouvernement persistent à donner leur soutien à ce projet incroyablement ruineux pour lequel on est en train de percer un tunnel dans la montagne, qui est une aberration totale, qui côté italien provoque beaucoup de mobilisation, notamment parce que de leur côté ils ont en plus la mafia qui s'est invitée dans le dossier, et étonnamment côté français, voilà, on continue à soutenir ce projet insoutenable. Donc c'est une source pour moi, je dois dire, d'étonnement assez permanent.
Sait-on pourquoi ?
Il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'intérêts économiques évidemment en jeu une fois de plus. Beaucoup de grandes entreprises du BTP qui sont sur le coup. C'est clairement, effectivement, il y a un lobby, et clairement ce lobby a ses entrées bien placées. Et puis je crois qu'il y a aussi un vrai problème idéologique de responsables politiques, de décideurs qui continuent à vouloir laisser leur empreinte. On le constate, hein, c'est un truc très étonnant.
Ouais. Ouais.
Voilà, le fait de bâtir comme ça une autoroute, une ligne à grande vitesse, un aéroport, semble rester le must de toute une classe politique décidément de plus en plus dépassée par les événements, qui refuse de voir en face la responsabilité qu'ils prennent en termes d'intérêt général, que ce soit sur l'utilisation de l'argent public, que ce soit sur le dérèglement climatique, que ce soit sur la nécessité de trouver d'autres formes d'aménagement du territoire, de déplacement. Voilà, c'est très étonnant, mais on constate à quel point certains préjugés ont la vie dure et voilà, ils sont encore dans l'époque pompidolienne des grands travaux, et on a, je dois dire, assez du mal à les en sortir.
Ouais, ou Napoléon III même, hein, c'est encore plus vieux. Et puis, créer un parc naturel régional, c'est deux fois plus grand qu'un aéroport, hein, ou quatre fois, dix fois plus grand. C'est une trace vachement plus importante, je trouve.
Absolument.
Un mot sur, non pas un mot, une explication sur le cas General Electric. Là, c'est un dossier que vous suivez beaucoup fort en ce moment.
Oui, je
ça se dit pas beaucoup fort, mais c'est pas
c'est le cas, effectivement, beaucoup et fort. C'est un dossier dont je tenais effectivement à parler ici, puisque c'est un dossier qu'on suit depuis des semaines, voire des mois, notamment avec ma camarade élue régionale Émilie Marche, qui est élue de l'Isère et sur Grenoble, qui est de manière quasi quotidienne avec les salariés de General Electric à Grenoble. C'est un cas là aussi très emblématique, puisqu'il s'agit d'un site qui va bientôt fêter ses 100 ans, qui a développé une expertise et un savoir-faire de pointe sur les turbines qui servent pour l'énergie hydroélectrique, donc en plus dans un domaine d'avenir en matière de transition énergétique. Ils font des turbines, ils font des prototypes, ils font des modèles réduits pour pouvoir tester ces turbines dans les laboratoires. C'est des gens qui sont amoureux de leur métier. Quand ils vous parlent de ce site, de leur savoir-faire, il y a une vraie fierté, un vrai attachement. Et il se trouve qu'ils ont été successivement vendus au fil des années, d'abord à Alstom, puis quand Alstom a été racheté, ils se sont retrouvés dans l'escarcelle du géant américain General Electric. Et aujourd'hui, General Electric, alors que le groupe s'était engagé au moment justement de cette vente d'Alstom même à ne pas supprimer d'emplois, alors que c'est un groupe qui se porte bien, c'est un groupe qui a touché des sommes très importantes en matière de crédit, d'impôts de type CICE. Et bien aujourd'hui, General Electric annonce la suppression de 345 emplois sur ce site qui en comporte 800, ce qui en réalité à terme condamne l'ensemble du site, hein, puisque c'est toute une partie de l'activité qui fait que le site n'aurait plus en réalité ensuite de raison d'être, de rentabilité et comme ils disent de compétitivité, alors qu'il a aujourd'hui tout ça. C'est un site qui se porte bien, qui sait faire de belles choses, qui est demandé par des clients du monde entier. Et donc, pour préserver ces 345 emplois, il y a eu toute une bataille ces dernières semaines. Il y a eu des courriers qui ont été envoyés. Nous, on a saisi à la fois Emmanuel Macron, parce que l'État est toujours actionnaire, mais aussi Laurent Wauquiez, parce que la région a la compétence sur cette question économique. Nous n'avons obtenu absolument aucune réponse. Nous avons posé une question orale à cette session justement du 29 septembre. Monsieur Wauquiez n'était même pas présent au moment où nous l'avons posée et continue à nous opposer son silence. Il y a eu un documentaire qui est passé sur LCP sur les coulisses du rachat d'Alstom par General Electric, où on se rend compte que beaucoup de responsables politiques, notamment du côté des Républicains, sont mouillés jusqu'au cou dans cette affaire et dans le fait qu'il n'y ait pas eu de commission d'enquête parlementaire alors qu'il aurait dû y en avoir une. Enfin bon, bref, c'est un dossier absolument énorme et absolument scandaleux dès qu'on commence à y regarder de plus près. Et donc, comme tout ça n'a pas fonctionné, eh bien, le 4 octobre, les salariés de General Electric ont décidé de bloquer leur site. Et donc, moi, je me suis rendue sur place. J'ai eu l'occasion d'y discuter avec eux, de visiter le site, d'observer, de pouvoir accumuler davantage d'informations, parce que c'est toujours sur place qu'on prend la mesure vraiment de ce type de lutte sociale. Et donc, je tenais à leur rendre hommage tout d'abord parce que c'est des gens très déterminés qui veulent avant tout préserver un savoir-faire industriel et des métiers d'avenir. C'est une lutte dans laquelle il y a énormément de fraternité entre les salariés, entre ouvriers et cadres également, ce qui mérite d'être souligné. Et aujourd'hui, ils bloquent le site. Et donc, c'est aussi un appel à les soutenir. Ceux qui sont dans le coin de Grenoble ou qui passent par là peuvent passer leur dire un mot de soutien. C'est des moments très importants. Ils ont aussi un compte Facebook, un compte Twitter. C'est Salariés Hydro Grenoble. Ça se trouve facilement. Et donc, voilà, n'hésitez pas à leur envoyer des messages de soutien. Ils en ont besoin et vraiment, ils le méritent.
Et puis, passons, Corinne Morel-Darleux, maintenant, pour terminer cette émission, à chose que vous faites et que vous suivez en marge de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On le rappelle assez souvent, l'engagement politique, c'est pas uniquement sur son poste d'élu. Et notamment, la suite de ce procès en Turquie, vous aviez été conduit la première fois.
Oui, alors effectivement, j'y étais allée déjà en juillet en tant qu'observatrice internationale et on avait été interdit d'accès de la salle au tribunal d'Ankara. Nous y sommes retournés pour la deuxième partie du procès. C'était toujours à Ankara, mais cette fois-ci, l'audience avait été déplacée en dehors de la ville, sur le lieu même de la prison de Sinchan, où est enfermée Figen Yüksekdag, la députée et cofondatrice du HDP, troisième parti en Turquie. Et nous avons à nouveau été interdits d'accès. Nous sommes restés à la porte de la prison, nous n'avons pas pu rentrer, ce qui est totalement contraire à toutes les règles internationales et à toutes les conventions signées par la Turquie, ce qui est également contraire à la constitution même de la Turquie, qui garantit le fait que tous les procès soient publics. On était cette fois-ci rejoint par une ONG qui travaille avec l'ONU et qui est basée à Genève, qui a décidé de s'intéresser de très près au sort de l'ensemble de ces députés du HDP qui ont été démocratiquement élus aux dernières législatives et qui se retrouvent aujourd'hui en prison sous des chefs d'inculpation totalement ahurissants, puisque dans le cas de Figen Yüksekdag, par exemple, elle est accusée de complicité avec des organisations terroristes, alors qu'elle n'a fait que demander l'arrêt des bombardements de civils au Kurdistan turc. Elle a demandé l'ouverture d'un corridor humanitaire au moment de ces bombardements. Elle a appelé, enfin voilà, des choses qui pour moi relèvent plutôt précisément du devoir d'humanité d'un député, qu'il soit turc ou français par ailleurs. Donc voilà, donc on est à nouveau resté à la porte. Le procès a de nouveau été ajourné et remis au 6 décembre. Pendant ce temps-là, Figen reste dans sa geôle en prison. On aimerait ressentir un petit peu plus d'émoi de la part de la communauté internationale et notamment du gouvernement français, qui a été assez actif sur la libération du journaliste Lou Bureau, détenu en Turquie, et c'est évidemment une excellente nouvelle. Mais je dois dire que c'était très troublant pour moi, puisque Lou Bureau a atterri à l'aéroport Charles de Gaulle en provenance d'Ankara le même matin où moi j'arrivais à l'aéroport Charles de Gaulle pour aller à Ankara me soucier du sort des autres détenus. Et on aimerait que le gouvernement français fasse preuve de la même fermeté, pas seulement pour ses ressortissants, mais pour l'ensemble des journalistes, avocats, élus, écrivains qui sont aujourd'hui toujours détenus par M. Erdogan dans ses prisons sans que les accusations soient fondées et en l'attente de leur procès.
C'est vrai qu'on nous parle souvent du Venezuela et on se demande parfois pourquoi, mais de la Turquie beaucoup moins. Gouvernement français, vous le citiez, qui avec ce passage de l'état d'urgence dans le droit commun, finalement, n'est pas si loin d'une situation pareille. Enfin, on emprisonne déjà des gens sur des chefs d'inculpation parfois douteux. En tout cas, on les met en garde à vue, parce qu'ils ont été écologistes, parce qu'ils ont été dans telle manifestation.
Alors, la situation n'est pas comparable entre la France et la Turquie, et fort heureusement, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très marquant, hein, c'est que quand on voyage dans des pays comme la Turquie, mais aussi, j'avais été moi très marquée par mes différents séjours en Tunisie avec les camarades du Front Populaire Tunisien, dont beaucoup ont passé un certain nombre d'années aussi en prison pour leur militantisme. Ça fait toujours une petite piqûre de rappel quand même sur le fait qu'il y a des pays où militer et s'engager, faut quand même pas tout à fait dire la même chose. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, on est encore loin, on a encore de la marge de ce type d'arrestation arbitraire. Pour autant, il faut justement se servir de ces contre-exemples pour rester extrêmement vigilant. Et c'est vrai que le pas qui vient d'être franchi avec l'adoption de ce projet de loi sur la lutte contre le terrorisme, qui effectivement inscrit en réalité l'état d'urgence dans le droit permanent, est un nouveau pas très inquiétant, parce que effectivement il va permettre de voir se multiplier ce qu'on a malheureusement déjà vu dans la période précédente ces derniers mois, c'est-à-dire des cas d'arrestation qui sont totalement injustifié. On a encore l'exemple là, en ce moment, avec l'acharnement judiciaire totalement stupéfiant contre Cédric Herrou, qui ne fait que son devoir d'humanité vis-à-vis des migrants et des réfugiés dans la vallée de la Roya, et qui est véritablement harcelé puisqu'il se fait arrêter tous les quatre matins chez lui. On a des exemples comme ça, malheureusement. Ça reste pas du tout du même ordre et de la même ampleur que ce qui se passe en Turquie, Dieu merci, mais ça c'est effectivement en allant voir aussi comment ça se passe ailleurs que on a une vigilance d'autant plus accrue sur tout ce qui pourrait nous y mener dans notre pays ici. Et c'est vrai que ce pas là est un nouveau pas inquiétant.
Et puis vous allez partir en Corée du Sud.
Oui, alors effectivement, j'ai été invitée en Corée du Sud, donc je vais partir fin octobre, passer 10 jours là-bas. avec un programme très dense et très alléchant, puisque je vais tout d'abord former les futurs candidats de la gauche progressiste aux prochaines élections locales qui vont avoir lieu en 2018 en Corée du Sud, et ils m'ont demandé de venir les former sur l'écosocialisme et puis apporter aussi mon témoignage justement d'élu local en France pour voir comment ils pourraient s'inspirer du fonctionnement de nos institutions ou au contraire en tirer des leçons de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je vais avoir pas mal de choses à leur raconter sur ce chapitre. Donc ça c'est intéressant parce que en plus d'un point de vue politique et démocratique, la Corée du Sud est en plein bouleversement puisque la présidente corrompue a été destituée, un nouveau gouvernement s'est mis en place et petit à petit il semblerait qu'il y ait un progrès possible du côté de la liberté d'expression, de la liberté de diversité, de pluralité démocratique des différents partis, donc notamment des partis progressistes de gauche qui avaient été obligés d'être dissous, sont en train de se reconstituer. Donc l'idée c'est aussi d'aider cette gauche à se restructurer et à se préparer à ces élections locales. Je vais également donner une conférence dans une fac auprès d'un public de jeunes sur l'écosocialisme, ce qui évidemment me réjouit fortement. Je l'avais déjà fait à Tokyo et je suis absolument ravie de le faire à Séoul. Et puis du coup, on est en train de prévoir aussi tout un programme de rencontres et de visites, notamment pour aller voir les équipements des futurs Jeux Olympiques d'hiver à Séoul, ce qui va être fort intéressant aussi parce qu'on a déjà ici pas mal de motifs d'inquiétude et d'opposition à cette grosse machine économique que sont les Jeux Olympiques. Mais autant vous dire qu'en Corée du Sud, avec la corruption ambiante, c'est un chantier puissance 1000 par rapport à ce qu'on va connaître ici à Paris. Je vais probablement également rencontrer le maire de Séoul et je vais demander une audience à l'ambassade de France parce que évidemment on est aussi dans un contexte géopolitique en ce moment avec les échanges de noms d'oiseaux entre le président des États-Unis d'Amérique et le président de la Corée du Nord. Et la Corée du Sud est prise entre deux feux, donc je vais aussi m'intéresser à cette question en allant sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et puis en me rendant sur une île sud-coréenne où la population est très fortement mobilisée contre l'installation d'une base militaire américaine. Cette occupation américaine est très très mal vécue en Corée du Sud. Il y a beaucoup de mouvements de protestation et donc ça va être évidemment très intéressant là aussi d'être sur place, de pouvoir discuter directement avec des représentants de ce peuple coréen et d'avoir des informations de première main parce que là aussi c'est typiquement des thématiques sur lesquelles les grands médias occidentaux ont souvent une vision un peu unilatérale. Et ça m'intéresse beaucoup de pouvoir avoir d'autres témoignages directs que ce qu'on peut lire ici dans les médias dominants.
Des voyages qu'on pourra suivre, je pense, sur votre blog, hein, Les Petits Poissons Rouges, bien sûr, et sur Reporter, pourquoi pas, chez Mermet, peut-être. Corinne Morel-Darleux, on se retrouve après la prochaine plénière de la session Auvergne-Rhône-Alpes qui sera les 29 et 30 novembre.
Oui, c'est effectivement la prochaine session qui sera consacrée au budget. Alors elle est dans longtemps, hein, ça fait un long moment sans qu'il se passe rien à la région. Sa date a été déplacée à plusieurs reprises. La raison en est simple, hein, c'est que notre président de région, Laurent Wauquiez, est également candidat à la présidence de Les Républicains qui tiennent leur congrès début décembre et donc il s'est visiblement ménagé du temps pour faire sa campagne interne au détriment donc des dossiers de la région.
Merci Corinne Morel-Darleux.
Merci à vous.
Interview. Ok, the bird. L'interview du jour.